moi je vous propose un propos sur la prière au travers d'une histoire. Le peuple d'Israël vient de sortir d'Égypte. Il y a eu des choses extraordinaires qui se sont passées, une lutte sans merci entre Moïse et Pharaon, de la violence, des cataclysmes. La nature a souffert et finalement, des bébés, des fils, des animaux sont morts. La 10e plaie d'Égypte a été terrible. Et puis les Égyptiens finissent par chasser les Israélites qui étaient réduits en esclavage pendant plusieurs siècles dans ce pays. Et les Israélites, avec des bagages improvisés, prennent la route du désert pour aller dans un pays que leur Dieu, tout nouvellement révélé à eux par la bouche de Moïse et à Aaron, que leur Dieu leur promet. Et les voilà partis. Les voilà partis avec peut-être un peu la boule au ventre, parce qu'ils ne savent pas où ils vont. Ils savent ce qu'ils quittent, mais ils ne savent pas ce qu'ils vont trouver. Les jours passent, le peuple avance dans le désert et arrive devant la mer des joncs, devant un obstacle infranchissable. Et ils apprennent, ou ils commencent à apercevoir la poussière de l'armée de Pharaon qui s'est fâchée et qui ne veut plus que ce peuple des esclaves qui lui rendait bien service s'en aille à si bon compte. Et vient les rechercher, ou alors les massacrer. Le peuple panique, n'en peut plus. Regrette même d'être parti, reproche à Moïse de les avoir embarqués dans cette galère. Il panique, il a peur. Et Moïse leur dit, ne vous inquiétez pas, n'ayez pas peur. Dieu va faire quelque chose. Mais comment Dieu peut-il faire quelque chose? On est face à la mer, ou dos à la mer. L'armée arrive sur nous. Qu'est-ce qu'on va faire? Nous n'avons pas une arme. L'histoire se poursuit ensuite avec quelque chose de difficilement compréhensible, c'est que Dieu ouvre la mer et permet au peuple d'y passer. À pied sec, le texte dit même, parce que moi j'aurais imaginé que c'était de la vase quand même au fond de la mer, à pied sec est-il écrit à plusieurs reprises dans le récit. Et puis il arrive de l'autre côté, au bout d'une longue marche quand même, et l'armée des Égyptiens les poursuit. Mais au moment où le peuple est sorti déjà de l'autre côté, Dieu rend difficile la progression des chars égyptiens et finalement referme la mer sur eux. Le peuple est délivré. Et nous arrivons dans le livre de l'Exode, au chapitre 15, où là, la louange explose. On n'y croyait plus. On était mort d'inquiétude avant d'être mort par l'épée des Égyptiens. Et maintenant, l'armée des Égyptiens est au fond de la mer. Nous avons la vie sauve et nous sommes passés de l'autre côté. C'est incroyable. Alors la louange est là. La louange du peuple tout entier. La louange de Moïse. La louange de Myriam aussi. Le peuple exulte, crie. Je les imagine. Je m'imagine avec eux en train de crier le poing levé en disant « On est libre, ça y est !» Chapitre 15 de l'Exode, verset 22. Moïse fit partir Israël de la mer des joncs. Donc là, c'est de l'autre côté. Après ce fameux cantique de Moïse et cantique de Myriam. Moïse fit partir Israël de la mer des joncs. Ils prirent la direction du désert de Chour. Ils firent 3 journées de marche dans le désert. Et ils ne trouvèrent pas d'eau. J'arrête là la lecture. La réalité revient. La difficulté revient. Vous avez déjà eu soif dans un pays où il fait chaud? C'est très angoissant. Surtout quand on sait qu'on ne va pas pouvoir boire, on n'a rien. C'est pas comme si, bon, ce soir on aura de l'eau. Là, il n'y a rien. C'est un peu comme ce que nous vivons ce matin. Ce matin, nous vivons le début du chapitre 15. Le cantique de Moïse, le cantique de Myriam, le cantique de Rachel et de Ruth, et d'Emmanuel et de Franck. Nous chantons avec eux. avec elle. Nous avons raison de nous de faire comme les Israélites qui avaient cette délivrance de la mer qui avait été passée, de cette armée dont ils avaient été délivrés. Nous avons raison, nous aussi, de faire cette halte bienfaisante dans la trépidation quotidienne, de nous réjouir des obstacles franchis, des étapes réussies dans la semaine passée. Nous avons raison de nous rappeler avec enthousiasme de la grâce de Dieu qui délivre. Nous avons raison de célébrer joyeusement sa puissance vivifiante. Nous avons raison de louer Dieu chaque dimanche, comme les Israélites l'ont fait à la sortie, après le passage de la mer. Et c'est là, c'est ce point par lequel je commence pour parler de la prière, la louange, nous réjouir, nous rappeler qui est Dieu. Nous rappeler ce qu'il est capable de faire, nous rappeler ce qu'il est. Planter, si je puis dire, remettre l'église au milieu du village. Resituer ce que nous sommes. Nous sommes ces créatures. La louange a un côté pédagogique. Nous aide à savoir qui nous sommes, à savoir où nous sommes et à savoir qui est Dieu, autant que nous puissions le comprendre. Nous avons besoin de ces temps de halte dans la semaine, ensemble, comme nous le faisons ce matin, de ces temps d'élévation, de reconnaissance, de célébration. Ensemble au culte, en communauté, dans la solitude aussi, de moments protégés de notre quotidien. Comme je l'ai vu dans la vidéo qui est magnifique de tout à l'heure, de Legacy, que ce soit dans une voiture, que ce soit dans un... Alors c'était quoi, Franck? C'était ton bureau, ton salon, voilà. Que ce soit sur une terrasse de café, que ce soit dans, chez soi, et à, sans doute à bien d'autres endroits encore. Prenons ces temps que nous protégeons de la trépidation quotidienne pour nous rappeler qui est Dieu, qui nous sommes, où nous sommes. Pour nous rappeler aussi qu'après l'angoisse, après l'inquiétude, il y a le soulagement. Pour nous rappeler que Dieu a le dernier mot, hein, et que même si moi je ne vois pas, je suis dos à la mer face à une armée, je ne vois pas d'issue, je dois me rappeler que lui, Dieu, lui envoie une et va m'y conduire. Après les heures sombres d'une épreuve peut-être, d'un moment très difficile qui nous a fait pleurer, qui nous a fait perdre le sommeil, après des luttes, des efforts, nous avons besoin de ces temps de réconfort que nous prenons devant Dieu. Nous avons besoin d'éduquer nos esprits à voir les choses positives parce que Dieu est le Dieu de la vie et que même dans les circonstances difficiles, il permet une issue. Les psaumes sont souvent construits de cette manière, avec un temps où, avant tout, le psalmiste reconnaît qui est Dieu, loue Dieu. Voilà pour le dimanche. Maintenant, il y a le lundi. Là, ça va se gâter. Le lundi, ils firent 3 journées de marche. Oh, ça nous fait lundi, mardi, mercredi, admettons. 3 journées de marche dans le désert et ils ne trouvèrent pas d'eau. L'angoisse reprend. La peur, les soucis, le manque d'eau. Dans le désert, un souci vital. Alors, c'est pas « mince, j'ai plus de batterie à mon téléphone ». Encore que pour certains, c'est peut-être un souci vital aussi. Peut-être c'est des soucis avec des enfants, si je reste dans le thème que tu nous as proposé, Anne. Des soucis de leur santé, de leur fréquentation, de leur réussite, ou pas. Des addictions que l'on craint, de leur foi, de leur amour, de savoir les aimer. Peut-être qu'en tant que parent, qu'en tant qu'oncle, que tante, qu'adulte, on a des nuits blanches, des angoisses à cause de ces jeunes qui nous inquiètent. On a des moments de panique, on a de la colère, on a du découragement. Ils arrivèrent à Mara, verset 23. Mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi on l'a appelée du nom de Mara, ce qui veut dire amère. Le peuple se mit à maugréer contre Moïse en disant « Qu'allons-nous boire ?» Ce n'est pas parce que nous louons Dieu le dimanche que nous n'aurons pas de problème pendant cette semaine. Ce n'est pas parce que le peuple d'Israël a loué Dieu au début du chapitre, juste après le passage de la mer, qu'après tout allait bien, ils étaient sur l'A39 avec des stations d'autoroute tous les 15 kilomètres. Que faisons-nous ? Que ferons-nous lundi, mardi, mercredi ? Peut-être que nous ferons comme eux, nous râlerons. Les Français sont connus pour ça. On fait ça très bien, on est champion du monde de la râlerie. À défaut d'être champion du monde de foot qu'on n'est qu'une fois tous les 20 ans. Ça, c'est chaque année, la râlerie. Nous allons faire dès demain des reproches au monde entier. Nous allons reprocher aux copains d'être mauvaise influence sur notre fille ou notre fils. Nous allons faire des reproches à Dieu lui-même. Exode, chapitre 15, toujours, verset 25. Moïse cria à l'Éternel. Le Seigneur lui indiqua un certain bois qu'il jeta dans l'eau. L'eau devint douce. Moïse cria à l'Éternel. Voilà la seule mention qui est faite. Je suis quand même assez... De la prière. Alors, on me demande de parler de la prière. Je choisis un texte très bizarre. Où la prière n'est qu'un cri. Mais c'est ça qui me plaît dans ce texte. Parce que crier, tout le monde sait faire. Faire de longues prières, réciter le Notre Père, peut-être qu'on ne le sait pas par cœur. Peut-être que certains nous donnent des complexes à faire des superbes prières. C'est du Victor Hugo, leur prière. Et moi, je ne sais pas prier. Oui, mais tu sais crier. Tu sais dire un mot. Une demi-phrase. Moïse a lancé un appel à l'aide. On ne sait rien de ce qui est dit dans ce texte. De la prière, on ne sait pas ce qu'il a dit. Moïse cria vers le Seigneur, à l'Éternel. Est-ce que c'était long ? Est-ce que c'était court ? Est-ce que c'était argumenté comme Abraham quand il priait ? Négocié ? Est-ce que c'était désespéré ? On ne sait pas. En tout cas, ce n'était pas une prière d'alcôve, toute tranquille, devant une bougie allumée ou sous un rayon de soleil matinal assis près d'une fenêtre. Non, c'était une prière qui sentait la transpiration, la poussière, le désespoir, la perdition. C'était un cri. Un cri peut-être comme celui que je pousse dans la cuisine, parce que notre ado ne rentre pas à l'heure qu'il avait dit ou que nous avions convenu. Et je crie parce que je meurs d'inquiétude pour lui. Un cri dans la salle de bain parce que je constate quelque chose d'anormal chez mon enfant en lui donnant son bain. Un cri dans la voiture parce que les enfants se disputent à l'arrière et que moi, au volant, je ne peux rien faire. Un cri. Pour bien d'autres raisons encore. Alors, comme prédication sur la prière, je ne vous parle que d'un cri, mais d'un cri vers Dieu. Et c'est ça qui compte. Je ne suis pas un champion de la prière. Et quand tu as dit tout à l'heure, Jean-Marc va vous donner un enseignement, je ne sais plus ce que tu as dit, je me suis dit, mais non, pas du tout. Moi, je vais vous parler d'un cri. Mais d'un cri vers Dieu. Je n'ai pas de carnet, je n'ai pas de méthode, et tant mieux, je vais la signer tout à l'heure, le programme de Legacy. Je n'ai pas de méthode. Je ne sais pas faire de longues et belles prières à la Victor Hugo. En revanche, je sais à qui je m'adresse. Je sais vers qui je ne peux peut-être lancer qu'un cri, qu'avoir une pensée même pas exprimée, où je n'ai pas trouvé les mots, où je bafouille, qu'importe, mais c'est à lui que je m'adresse. Et lui est un expert. Lui, il sait faire. Moïse a fait un cri dont on ne sait pas grand-chose, mais Dieu a répondu. Ce Dieu-là est un expert et nous n'avons que celui-là. Il maîtrise son sujet, Dieu. Il me comprend en un cri, comme une mère ou un père comprends quand un bébé, la manière dont il pleure, on sait, tiens, il a faim, tiens, il a froid, tiens, il a pas le moral, tiens, il a envie de faire une dissertation de philosophie, tiens. Quand la manière dont le bébé pleure, on comprend tout. Et pourtant, le bébé ne fait que, même pas articuler un mot. Quand nous crions, Dieu comprend tout aussi. C'est vers lui que je crie. Ayons ce cœur, ayons cette confiance, ce réflexe, cette attitude de crier vers Dieu. Ce n'est pas une démission du style « la prière est un refuge pour ne rien faire ». Moïse restait à la tête du peuple lorsqu'il a adressé ce cri à Dieu. Ce n'est pas un déni et un refus de la réalité. Moïse affronte la réalité. C'est une manière de faire face. Il faut noter que crier à Dieu n'est pas un fait isolé dans notre récit où il n'y aurait eu que là que Moïse aurait crié à Dieu. C'est à plusieurs reprises qu'on le voit dans le récit de l'Exode, qu'on voit Moïse crier vers Dieu. Et après le cri de Dieu, vers Dieu, pardon, il y a la réponse. J'en ai lu le début tout à l'heure. Le Seigneur lui indiqua un certain bois qu'il jeta dans l'eau. L'eau devint douce. C'est là qu'il donna au peuple des prescriptions et des règles. C'est là aussi qu'il le mit à l'épreuve. Il dit, « Si vraiment tu écoutes le Seigneur, ton Dieu, si tu fais ce qui lui convient, si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu observes toutes ses prescriptions, je ne t'infligerai aucune des maladies que j'ai infligées à l'Égypte. » Là, c'était l'allusion, je pense, aux plaies, ce que nous appelons les plaies d'Égypte. « C'est moi, le Seigneur, qui te guérit. » Dieu répond. Mais sa réponse est une instruction. Le verbe qui est utilisé ici, ce n'est pas juste indiquer. On pourrait le traduire par enseigner, par instruire. Et c'est d'ailleurs le ton qui est utilisé dans la suite de la réponse. Si vraiment tu écoutes le Seigneur, si tu prêtes l'oreille à ses commandements. La réponse est surprenante. Jeter un bout de bois dans l'eau. Alors là, les commentateurs se sont livrés à toutes sortes de commentaires et ont cherché de quelle espèce de bois ça pouvait être. Certains vont aller jusqu'à imaginer que c'était une préfiguration de la croix de Jésus-Christ. Enfin, ça va très loin. Bravo à eux, mais je vais les laisser de côté. Ce que je retiens, je me mets à la place de Moïse. Et je me dis, fais ce que Dieu te dit, même si tu ne comprends pas. C'est assez incompréhensible, mais c'est ce qu'il faut faire. C'est un peu comme d'autres histoires, comme cet homme qui devait aller se baigner plusieurs fois dans le Jourdain pour guérir sa maladie de peau. Il dit, mais c'est complètement idiot, ce que je dois faire. Mais il l'a fait. Et il a été guéri. Dieu est assez grand pour purifier l'eau les eaux de Mara sans que Moïse jette le bout de bois. Dieu aurait très bien pu, par je ne sais quel effet de sa puissance, purifier l'eau sans qu'il y ait un quelconque geste à faire par Moïse. Pourquoi Dieu a-t-il demandé à Moïse de faire ce geste? Ce geste était à la portée de Moïse. Qui ne sait pas jeter un bout de bois dans de l'eau? L'important était de faire, d'agir. Lorsque nous prions Dieu, et c'est là, je pense, un des enseignements de ce texte, cela nous mobilise. Dieu nous demande, ok, tu veux que je te réponde? Toi, fais quelque chose. Je prie pour les enfants? Je prie pour la jeunesse? Qu'est-ce que moi, je dois faire pour la jeunesse, pour les enfants? Le peuple a été délivré, il a bu de l'eau pur. Le peuple a été instruit, puisqu'il y a eu d'autres prescriptions et d'autres règles données à cette occasion-là. Et le peuple a été mis en garde, parce qu'il fallait qu'il soit fidèle. De même pour nous. Nous prions Dieu pour nos enfants, nos petits-enfants, nos neveux, nos nièces. Nous prions pour la jeunesse dans l'Église, que nous ayons notre Église, les enfants qui sont à l'école du dimanche maintenant, les jeunes, les ados, les enfants du quartier, du voisinage. Écoutons l'instruction de Dieu. Jetons-nous aussi nos bouts de bois dans l'eau amère. Ayons des gestes d'attention. Donnons un exemple. Portons-leur de l'intérêt. Donnons-leur un sentiment de sécurité. Un petit exemple rigolo. À Mulhouse, pendant de longues années, il y avait une vieille dame qui n'avait pas d'enfant et qui avait la manie, après le culte, d'avoir un sac de bonbons. Et elle, évidemment, elle était très populaire auprès des enfants. Et pas populaire auprès des parents, parce qu'il y a des parents, on donne des bonbons à 11h30, midi moins le quart, ça va couper l'appétit, tout ça. C'est... Alors il fallait le faire en cachette, c'est encore meilleur. Un petit geste d'attention, c'était pas grand-chose. Mais il y en a qui en parlent encore. Des petites choses comme ça, c'est des bouts de bois qu'on jette dans l'eau. C'est une suite. On prie pour les jeunes, alors on veut aussi les aimer nous. Pas laisser Dieu faire le travail, mais nous aussi on veut. Donnons-leur du temps. Plus généralement, lorsque nous prions pour une personne, pour une situation, ne nous déchargeons pas sur Dieu de nos responsabilités. Dieu nous lance un défi, c'est lui être fidèle. Le chapitre 58 du prophète Ésaïe nous raconte comment Dieu attend que nous jeûnions. Le jeûne, c'est une forme de prière. Et Ésaïe dit que Dieu en a marre. Des beaux jeûnes qui se font à l'église le dimanche matin, avec des belles prières, des beaux chants. Je transpose, vous aurez compris. Mais en revanche, le lundi, on est un égoïste fini. On ne s'occupe pas de ses collègues, on ne s'occupe pas de ses voisins, on pense qu'à soi. Le jeûne auquel Dieu prend plaisir, c'est de partager son pain avec celui qui a faim. Et toute une série d'autres actes. Le chapitre 58, je vous le recommande, il est magnifique. Et c'est, je pense, le sens du récit de Mara. L'histoire se termine bien. Se termine, d'ailleurs, dans un autre lieu, au verset 27, et ce sera ma conclusion. Ils arrivent à Élim, où il y avait 12 sources et 70 palmiers. Moi, je me suis demandé pourquoi ils ont compté les palmiers. Quelle idée! Vous arrivez dans un bosquet, vous comptez les arbres, vous? Alors, ça veut dire qu'ils étaient... Ah oui, pardon. Donc, il y en a au moins un qui comptera les arbres. Ça veut dire qu'ils étaient contents de les trouver. Et ça veut dire que c'était vraiment un soulagement. 70 arbres pour avoir de l'ombre et 12 sources pour boire de l'eau fraîche, de l'eau, pas de l'eau pure, de l'eau agréable. N'oublions pas non plus. Ils campèrent près de l'eau, nous dit le texte. Alors, ils n'ont pas eu le château de Versailles près de l'eau. Ils ont eu leur tente. C'est quand même la vie ordinaire qui était là. Mais en même temps, ils étaient soulagés. Et on sent dans ce petit... ils arrivèrent à Élim, où il y avait, ils ont compté les sources. Ça va mieux. N'oublions jamais que Dieu ne perd pas le nord. Ok, on a des eaux de Mara dans lesquelles on a des luttes. Il faut qu'on soit fidèle, il faut qu'on soit... on peut avoir à crier Dieu, à vers Dieu, parce que nous sommes inquiets. Mais Dieu nous donne le soulagement après. Les eaux d'Élim, les sources d'Élim sont là. Le message est clair, sois fidèle, tiens dans les moments difficiles, et puis Dieu prépare l'avenir, et ce sera bien mieux. Ce qui n'est pas dit dans ce récit, au verset 27, c'est les cris. Est-ce que Moïse a crié de nouveau à Élim? Il n'a pas eu de bout de bois à jeter dans les 12 sources. Remarquez, il aurait pu, parce qu'il y avait 70 arbres, donc il aurait pu prendre du bois des arbres pour les jeter. Non. Nous avons aussi des bons moments dans lesquels il ne faut pas oublier d'adresser nos cris à Dieu. Alors ce ne sera peut-être pas des cris, mais des phrases plus longues cette fois. Prenons le temps aussi, quand ça va bien. Et puis je vous rappelle pour finir que ce qui compte dans tout ça, ce ne sont pas nos prières, ce n'est pas un genre de technique magique pour obtenir ce qu'on veut. Ce qui compte dans nos prières, qu'elles soient longues, qu'elles soient courtes, qu'elles soient élégantes, qu'elles soient maladroites, c'est que Dieu les écoute. Amen.